France Culture, il est 23h, les voies de l'imaginaire s'ouvrent à vous. Rien n'est trop beau, rien n'est trop fou, tout est possible.
Création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Avec Jean-Michel Espitalier, nous avons appris que le rat n'est pas un animal. Le huguenot n'est pas un animal, la gigogne n'est pas un animal, le ptix n'est pas un animal, la gifle n'est pas un animal, la crassule n'est pas un animal. Ce soir, il propose la litanie d'un homme ordinaire. Milorad est un homme banal, Milorad est un homme de grande taille, Milorad sait repeindre les plafonds, Milorad a vécu à la verpillière, Milorad semblait gentil comme un nounours. Jean-Michel Espitalier et Véronique Lamondour veulent tenter le portrait d'un homme normal, banal, sans histoire, que rien ne différencie de n'importe quel homme normal, banal et sans histoire. Il veut surtout montrer que la réalité cache parfois dans ses plis des choses fortes, peu recommandables, et qui peuvent donner accès, pour qui sait regarder, aux régions troubles de la monstruosité, laquelle demeure toujours dans une très inquiétante proximité. Un citoyen très ordinaire, création on air.
La lune, lui, de la même manière pour le poète et pour celui qui s'est rendu coupable de génocide. Kazimierz Moksarski, entretien avec le bourreau.
Jebeš pa i ovaj gotovo.
Idite Bugaru, pječu u
mati. Ma, može ti da završi sa njima.
De nos jours, les citoyens des États politiquement stables sont si éloignés de la violence réelle qu'ils ne peuvent s'empêcher de penser que ceux qui la commettent sont en quelque sorte des êtres hors du commun, extrêmement malfaisants, complètement détraqués et très différents des gens ordinaires avec qui ils sont pour leur part en contact dans la vie quotidienne. C'est oublier que sans les bornes que la puissance publique impose aux individus, n'importe qui pourrait porter préjudice à ses semblables et tuer pour une multitude de raisons, mais jamais, si ce n'est dans de très rares occasions, sans aucun motif.
Kosovska bitka sadrži u sebi još jedan veliki simbol. To je simbol junaštva. Njemu su posvećene pesme, igre, literatura i istorija. Neka živi Srbija! Neka živi Jugoslavija! Neka živi mir i bratstvo među narodima!
Bonsoir. L'épuration ethnique a commencé dans l'enclave musulmane de Srebrenica. Au fil des heures, les Serbes multiplient les provocations. Sur place, la situation est dramatique. Dans un instant, le témoignage de MSF, le coup de gueule de Jacques Chirac.
Annonçait tout à l'heure l'ONU à Sarajevo. Les chars serbes sont entrés dans la ville, la population et les casques bleus fuient vers le nord de l'enclave. Malgré les assurances données hier à la Forprenu par l'état-major des forces serbes, l'offensive s'est donc poursuivie aujourd'hui. Dès 11h ce matin, Les derniers postes d'observation néerlandais, la ville de Srebrenica elle-même et la base olusienne de Protočari,
la base olusienne de Srebrenica, une centaine de kilomètres à l'est de Bosniak, est tombée en main des Serbes vers 15h cet après-midi. 40 000 personnes réfugiées dans cette ville, en ce moment même, dans la panique, à pied, vers le nord, où se trouve la poche musulmane de Tuzla. 25 000 d'entre eux sont actuellement massés.
Les organisations humanitaires sont particulièrement préoccupées par le sort de ces hommes et de ces femmes, séparés de leur famille depuis mardi dernier. Enfin, il y a ceux, un tout petit nombre, qui sont restés à Srebrenica.
Comment d'homme ordinaire devient-on exécuteur ? Quatre éléments apparaissent constitutifs. Premièrement, il est clair que la condition préalable de toute tuerie massive est toujours la même. La définition d'un groupe nous et d'un groupe eux. Et cette définition est à chaque fois sans passerelle, elle ne saurait être franchie par une action personnelle. Deuxièmement, la perception d'une menace personnelle, si irrationnelle qu'elle puisse paraître de l'extérieur, est une des raisons qui poussent à se décider à tuer. Troisièmement, il n'est pas de processus de meurtre de masse qui ne trouve ses exécutants. Il y a toujours un nombre suffisant de gens qui se décident à tuer. Quatrièmement, ces acteurs du crime de masse intègrent aisément pour l'essentiel leurs actes meurtriers au courant de leur vie ordinaire.
Le 11 juillet 1995, l'enclave bosniaque de Srebrenica, en ex-Yougoslavie, tombe aux mains de l'armée serbe sous les ordres du commandant Mladic. Dans les jours qui suivent, 8000 hommes sont liquidés par les troupes régulières et un certain nombre d'unités paramilitaires. L'une de ces unités, les Scorpions, s'est filmée en pleine action, la pleine action consistant en l'exécution sommaire de 6 jeunes bosniaques. La vidéo, qui avait circulé sous le manteau en Serbie pendant de nombreuses années, fut rendu public au procès de Slobodan Milošević à La Haye le 1er juin 2005. Parmi les miliciens qui plastronnent et rient devant la caméra, un homme se détache par sa taille. Un géant massif, au crâne rasé. Il est vêtu d'une combinaison noire, porte un petit sac à dos et exhibe fièrement son fusil d'assaut. Cet homme, c'est Milorad Momić. En juillet 1995, Milorad Momić a 31 ans. Il a été recruté au sein de la milice des Scorpions par l'un de ses amis d'enfance, Slobodan Medić. Le groupe participe aux opérations d'épuration ethnique menées par les Serbes de Bosnie et se livre à de nombreuses exactions. Dans la vidéo, Milorad Momić ne parle pas beaucoup. On n'entend jamais sa voix. Il sourit, exhibe son fusil d'assaut, canon en l'air, regarde les uns et les autres, écoute, rit aux blagues du chef de la section, lequel, très en verve, provoque les prisonniers, les humilie, les insulte. À la fin de la guerre, Momić passe en France. Il s'installe à la Verpillière, en Isère, se marie, obtient sa naturalisation en avril 2007 et francise son nom en Guy Monnier. Ce citoyen ordinaire d'une petite ville ordinaire menant une vie ordinaire tente de se faire oublier, peut-être même d'oublier. Il s'intègre parfaitement. Tout le monde le connaît, tout le monde l'aime bien. On l'appelle Mickey. Jusqu'à ce jour de janvier 2011, où il est reconnu, arrêté, extradé et jugé en Croatie. Il purge actuellement une peine de 15 ans de prison pour crime de guerre. Le bon époux, le copain sympa, le voisin serviable, était un criminel de guerre. Le criminel de guerre était bon époux, copain sympa, voisin serviable. Un citoyen très ordinaire.
Non, non, nous on est retraités, nous on sait rien du tout. On n'est pas des. Hein. Il faut demander à lui là. À lui là, c'est un légionnaire, il faut demander à lui. Hein.
C'est vrai, vous l'avez connu, Mickey ?
Non, il l'a jamais connu. Non, il l'a jamais connu.
Milorad, il était venu chez son ami Dragan, qui était un compatriote, et qui habitait juste en face de chez moi à l'époque.
Et alors, il vous parlait de la guerre en ex-Yougoslavie ?
Jamais on en a parlé. Mais l'occasion ne s'est jamais passée non plus, ouais, pour qu'on en parle. Hein. Je sais qu'il avait vécu des choses, parce que c'est Dragan qui me l'avait dit, qu'il avait vécu des moments douloureux.
Et en quelles circonstances vous l'avez rencontré ?
Comme ça, il était venu voir son collègue et comme moi je connaissais bien Dragan, Dragan me l'avait présenté, on avait bu l'apéro ensemble, voilà.
Il parlait bien français ?
Il parlait suffisamment bien pour qu'on le comprenne correctement. Ouais. Ouais. Il avait un fort accent,
oui, bien sûr.
Il le parlait bien.
Ouais.
De ce côté-là, il n'y avait pas de... Je savais d'où il venait. Je sais qu'il regrettait l'ancienne Yougoslavie. Pour lui, c'était pas... Ben, c'est la seule chose que je sais. Mmh. Pour lui, l'ancienne Yougoslavie, c'était toute sa jeunesse, c'était toute son enfance. C'était quelqu'un de... comment dirais-je, de très doux. Je le côtoyais pas mal. Je ne l'ai jamais vu en colère. Je ne l'ai jamais vu énervé. Un jour, je lui ai dit, il venait voir son pote, et il vient me dire bonjour, je suis dans la cour, et qu'est-ce que tu fais ? Je dis, je suis en train de m'en voir comme un beau diable, là, je suis en train d'essayer de refaire un plafond dans une chambre, et j'y arrive pas. Ah, il me dit, viens, moi, je suis peintre, moi, je vais te faire voir, moi, je vais regarder ça, je vais t'expliquer. Il monte à la maison, et il regarde ce que j'étais en train de faire, et il me dit, il monte, il tape sur le plafond. Il n'avait pas besoin de monter sur l'échelle pour ça, hein, parce qu'il était grand. Hein. Et il me dit, ah oui, mais attends, c'est pas du placo, c'est de la brique. Je dis, ouais, c'est ça. Il me dit, là, tu ne pourras pas le faire toi-même. Il me dit, si tu veux, je te le fais. Alors, je dis, attends, mais si, je te le fais, ça me fait plaisir. Et il m'a refait mon plafond. Et quand je lui ai demandé combien je te dois, il m'a dit, mais rien, un jour, on mange ensemble, c'est bon. Ah, non, c'était un type formidable. Moi, quand mes petits-enfants étaient avec moi, parce qu'à l'époque, on les prenait plus souvent que maintenant encore, quand ils les voyaient, ils me prenaient ma petite-fille dans les bras, ils jouaient avec les gosses. Non, moi, pour moi, c'était un type très bien.
Constater que de nombreux génocidaires mènent, après avoir commis leurs crimes, une existence apparemment normale, voire même réussie, et dont ils sont manifestement satisfaits, ne constitue en rien une preuve de normalité. Une fois passée la période génocidaire, les meurtriers de masse reviennent à une existence civile plus convenable. Ils ont vraiment laissé le compartiment d'extermination derrière eux. Il leur faut désormais reléguer définitivement leur moi criminel, dans un compartiment séparé et clos de leur vie sociale et mentale. De tels compartiments ne sont cependant pas hermétiques, ni socialement, ni mentalement. Les souvenirs ne disparaissent pas. Simplement, les génocidaires n'y pensent plus. Chacun d'eux était à l'époque un autre homme. Ils retrouvent à présent, de nouveau, leur ancien moi civil.
C'était une personne fort agréable, sympathique, très polie. Que j'aimais bien, qui était agréable à parler avec lui, très très poli, je vous dis très poli, toujours bonjour, merci, au revoir. De temps en temps, il venait boire un petit café, il venait... Il avait des amis, des personnes qui venaient. Quand on vient, tout le monde se parle un petit peu, mais très sympathique, non. C'était... Et puis agréable à discuter, voilà.
J'avais un bar tabac à Chavagneux, moi, à l'époque, il y a bien 15 ans en arrière. Et donc, c'est là où je l'ai rencontré, moi. Donc, un gars qui faisait ses chantiers, qui faisait plâtrier, peintre, bâtiment, enfin, tout ce qui était peinture. Et donc, on s'est rencontrés comme ça. Et voilà, donc, c'était un mec, enfin, c'est un mec adorable. Hein. Et quand je vous dis adorable, c'est vraiment adorable. Malgré sa corpulence, qui était à l'époque imposante, aujourd'hui, elle l'est moins. Je suis quand même ses photos sur internet, je regarde quand même un peu, il a vraiment maigri, il a pris un sacré coup. Et voilà quoi. Donc Après, c'est là où j'ai vraiment su l'histoire, c'est lorsqu'ils sont venus le chercher ici, qu'ils sont venus l'emmener, parce qu'ils ne nous en ont jamais parlé. Je sais qu'il y a eu des histoires un peu lorsqu'ils ont dit qu'il avait des faux papiers, qu'il avait il n'a jamais eu de faux papiers. C'est quelqu'un qui est venu en France légalement. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il était marié avec une Française qui était à l'époque mariée avec un policier. Donc s'il aurait vraiment voulu se cacher, je pense que c'est pas en se mariant avec... donc voilà, après il n'y a jamais eu de... Non, là-dessus... Et après, bon, les histoires qu'on a entendues par rapport à ces vidéos, ces images. D'après ce que j'ai cru entendre dire, ces images n'ont jamais été complètes. C'était son cousin qui avait fait le film, qui avait filmé l'action lorsque les enfants descendent du camion et qu'on le voit tirer une rafale au-dessus de la tête des jeunes qui sont au sol. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre dire, il n'y avait rien de plus. Quoi. Lui ne faisait pas partie de ce qu'on... Et donc voilà.
L'influence des situations vécues sur la docilité des populations à l'égard des autorités est bien plus grande qu'on ne le supposait avant que Milgram n'entreprenne ses célèbres expériences dans le laboratoire de psychologie sociale de l'université de Yale. La loyauté des meurtriers entre eux joue également un rôle plus important qu'on ne le pensait. Selon le point de vue situationniste, des hommes ordinaires commettent, dans des circonstances exceptionnelles, des crimes d'une extraordinaire monstruosité. Il s'ensuit nécessairement que des hommes quelconques, comme vous et moi, auraient agi de façon identique dans les mêmes circonstances. Dans sa formulation la plus simpliste, cette assertion se suffit pleinement à elle-même.
Début des années 60, à l'université de Yale, aux États-Unis, le psychologue Stanley Milgram mit au point une expérience concernant la soumission à une autorité. Il s'agissait d'évaluer le niveau d'obéissance jusqu'auquel peut aller un individu, notamment quand cette obéissance induit des actions contraires à ses valeurs morales. Placé sous l'autorité d'un expérimentateur supposé compétent, des individus devaient appliquer des traitements cruels, en l'occurrence des décharges électriques, à des tiers afin de vérifier leur capacité d'apprentissage. Cette expérience mettait en jeu trois sujets. L'élève, censé mémoriser des listes de mots et qui recevait une décharge électrique de plus en plus forte en cas d'erreur. L'enseignant, dictant les mots à l'élève et vérifiant les réponses. En cas d'erreur, c'est lui qui envoyait à l'élève une décharge électrique destinée à le faire souffrir. L'expérimentateur, vêtu de la blouse blanche du scientifique, qui représentait l'autorité et la compétence. L'expérimentateur et l'élève étaient en réalité des comédiens. Les chocs électriques étaient fictifs. Seul l'enseignant, qui n'était pas informé du subterfuge, était l'objet de l'expérience. Installé devant des manettes censées envoyer des décharges électriques à l'élève, l'enseignant cherche à lui faire mémoriser des listes de mots. En cas d'erreur, il enclenche une manette et croit qu'ainsi l'élève reçoit un choc électrique de puissance croissante. Le sujet est prié d'annoncer le voltage correspondant avant de l'appliquer. Les réactions au choc sont simulées par l'élève. Sa souffrance apparente évolue au cours de la séance. À partir de 75 volts, il gémit. À 120 volts, il se plaint d'avoir mal. À 135 volts, il hurle, etc. Lorsque l'élève ne répond plus, l'expérimentateur indique à l'enseignant qu'une absence de réponse est considérée comme une erreur. À partir de 150 volts, la majorité des enseignants manifestent des doutes et interrogent l'expérimentateur. Celui-ci est chargé de les rassurer en leur affirmant qu'ils ne seront pas tenus pour responsables des conséquences. Si un sujet hésite, l'expérimentateur lui demande d'agir. S'il exprime le désir d'arrêter l'expérience, l'expérimentateur lui ordonne avec fermeté mais courtoisie de la poursuivre. L'expérience prend fin quand le sujet a administré 3 décharges maximales de 450 volts à l'aide des manettes XXX situées juste après celles indiquant « Attention, choc dangereux ». Lors des premières expériences menées par Stanley Milgram, 62,5% des sujets menèrent l'expérience à terme en infligeant à 3 reprises les électrochocs de 450 volts. Tous les participants acceptèrent le principe annoncé et éventuellement, après encouragement, atteignirent au moins 135 volts. Beaucoup présentaient des signes patents de nervosité extrême et de réticence lors des derniers stades, protestations verbales, rires nerveux, etc. Mais un certain nombre d'enseignants ne ressentirent aucune culpabilité à faire souffrir l'élève, rejetant la responsabilité sur l'expérimentateur et parfois sur l'élève. Milgram qualifia ces résultats d'inattendus et inquiétants et déduisit que si l'obéissance à une autorité et l'intégration de l'individu au sein d'une hiérarchie sont les fondements de toute société, l'obéissance devient dangereuse lorsqu'elle entre en conflit avec la conscience de l'individu, en d'autres termes, lorsqu'elle est aveugle.
On l'a oublié, mais ça va avec toutes les guerres, ça. Une guerre, c'est jamais beau.
L'extermination de masse est une explosion de violence collective. Des milliers, des dizaines de milliers d'hommes sont incités à en éliminer des centaines de milliers, des millions d'autres. Pourtant, la plupart des meurtriers n'avaient, pour ainsi dire, jamais fait auparavant de mal à autrui. Et une fois le génocide commis, la grande majorité d'entre eux ne porteront plus atteinte à l'intégrité physique de quiconque.
Un nounours, je vous jure, un nounours. Sur la vidéo, il est imposant, hein, je vous dis, c'est le gars, moi j'avais la porte du bar de Chamanu, il baissait la tête pour rentrer, hein. Il avait des mains, j'ai des grandes mains quand même, il a des mains, c'était imposante, hein. Mais c'était un ours, hein. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais je l'ai vu s'énerver, jamais, mais jamais, jamais, jamais. Moi la première fois que je l'ai vu, je vous dis, il est rentré, et je me suis mis, je le connaissais pas, il venait de rentrer dans le bar, c'est le premier soir qu'il est rentré, j'ai fait le tour du bar. Je me suis mis à côté de lui, donc je l'ai regardé en bas. Je fais attention, toi, hein, tu bouges pas une oreille, je lui dis. Comme ça, mais il s'est explosé de rire. Et c'est là où on a lié amitié, quoi. Voilà, c'était vraiment pas le gars méchant ni quoi que ce soit, quoi. Il rentrait des fois du boulot, il venait se boire une bière et puis il repartait, et puis voilà, quoi. Sans se cacher, sans rien, quoi. C'est pour ça que c'est étonnant, tout ça.
Les recherches sur l'altruisme ont bien montré que les comportements d'aide et de secours se concentrent très fortement sur le groupe auquel les sujets appartiennent. Dans une perspective théorique, Norbert Elias a exposé que l'action des individus ne peut être comprise que sur l'arrière-plan d'une appartenance perçue à un groupe « nous » et dans l'interdépendance de cette action et des actions des autres. Le groupe « nous » exige la loyauté, tandis que le groupe « eux » visé par l'ordre est considéré comme menaçant ou comme inférieur. Ainsi, dès l'instant où l'ordre est donné, ceux qui en seront les victimes n'ont guère de chance de voir ceux qui seront les exécuteurs décider de ne pas les tuer. Les situations de type militaire sont pour ainsi dire le prototype de ce schéma par groupe nous et eux, avant même la moindre confrontation. Songeons aux notions de camaraderie et d'esprit de corps. S'ajoute à cela que dans la guerre, les hommes sont entre eux et qu'il n'y a plus de personnes extérieures à leur groupe qui puisse contester le cadre de référence de celui-ci.
En 1950, Solomon Ash, chercheur en psychologie à Swarthmore College aux États-Unis, a mené une expérience sur le conformisme et le pouvoir exercé par le groupe sur un individu. Il a soumis à un groupe d'étudiants une image représentant à droite trois lignes verticales de différentes longueurs, à gauche une seule ligne verticale. Il s'agit pour chacun des étudiants d'identifier quelle ligne parmi les trois de droite était de longueur identique à la ligne de gauche. Réalisé dans des conditions normales, ce test donna un taux de réussite supérieur à 99%. Le test de Solomon H. a consisté à placer le sujet de l'expérience dans un groupe d'une dizaine de candidats où chacun devait donner sa réponse à voix haute. Tous les candidats étaient en réalité complices de l'expérience sans que le sujet en soit informé. Le groupe était disposé de telle façon que le sujet testé soit le dernier à répondre. Sur les 18 fois que fut proposé le test, le groupe complice donna unanimement une réponse fausse 12 fois. Dans ces conditions, il ressortit qu'environ 75% des personnes testées se laissèrent influencer au moins une fois en suivant l'avis du groupe qui donnait pourtant une réponse fausse. L'expérience de H révèle que dans un groupe constitué, le besoin de conformité au groupe peut nous pousser contre l'évidence, consciemment ou non. Une fois la supercherie révélée, les sujets de l'expérience avancèrent plusieurs explications pour justifier leur suivisme. Éviter le conflit avec les autres membres du groupe, éviter de se sentir minoritaire au sein d'une pensée majoritaire ou unique, éviter d'être rejeté par le groupe majoritaire, d'autant plus si celui-ci s'avère attractif pour la minorité. Gérer une carence informationnelle, partielle ou totale, temporaire ou inéluctable. Par introversion, même quand le sujet est persuadé que son opinion est la bonne. Par soumission à la pression qu'exerce la norme.
Réalisée par l'un des membres des Scorpions, la vidéo d'une quinzaine de minutes montre les miliciens maltraiter 6 jeunes bosniaques arrêtés quelque temps plus tôt. Insultes, humiliations diverses, brutalité et finalement froide et lente exécution dans une clairière. Ce qui frappe dans ce film, c'est l'extrême banalité de l'image. Le décor d'abord. Une petite route forestière non goudronnée, au bord de laquelle sont allongés, face contre terre, mains liées dans le dos, 6 jeunes bosniaques dont le plus jeune n'a pas 17 ans. Puis le lieu de l'exécution proprement dite. Une clairière dont les nuances de vert et les ruissellements de lumière pourrait servir de cadre à quelques délicats déjeuners sur l'herbe. On entend le sifflotement joyeux des oiseaux. Il fait beau. Les protagonistes ensuite. Des miliciens désinvoltes qui posent en souriant devant l'objectif, discutent tranquillement entre eux, rient, fument, mâchent nonchalamment du chewing-gum. Celui qui filme demande s'il est possible d'accélérer les exécutions parce que la batterie de sa caméra est presque à plat. Le chef vocifère une langue immédiatement reconnaissable. Il parle en serbo-croate, mais cette langue n'est pas du serbo-croate. Elle est la langue brutale de celui qui s'adresse à celui qu'il va assassiner. Elle est la langue barbare qui réduit l'homme en chose. La langue de cette chance de l'inhumanité impunie dont parle Günther Anders. Elle est la langue universelle des bourreaux. L'action se passe en Bosnie, c'est-à-dire n'importe où.
Scène 1, intérieur camion. Sur le plateau d'un camion bâché, 6 corps allongés, entremêlés, mains attachées dans le dos. La couleur dominante est le bleu. Une paire de jambes munies de rangers monte dans le camion, marche sur les corps entremêlés et va s'asseoir au fond sur une banquette. La paire de jambes munies de rangers appartient à un milicien. Celui-ci tient une arme automatique à la main. Les 6 corps entremêlés sont des prisonniers. Scène 2. Extérieur, route forestière. Une petite route forestière non goudronnée, le camion est garé, il fait beau. 5 ou 6 miliciens font les 100 pas près du camion, 2 d'entre eux mâchent nerveusement un chewing-gum. Ils regardent le paysage, se regardent, regardent le camion. L'un d'eux réajuste sa casquette sur la tête, ils paraissent attendre quelque chose. Milorad Momic se tient debout à côté du camion, arme à la main, tête nue. Il est vêtu d'une combinaison noire et porte un petit sac à dos. Il est l'un des 2 miliciens qui mâchent du chewing-gum.
Allez dehors, allez! Sortez du camion! Allez, plus vite que ça, debout, allez, bougez-vous!
Le premier prisonnier saute du camion.
Plus vite, plus vite! Allongez-vous sur le côté, là!
Le deuxième prisonnier saute du camion. Il est pieds nus. Il s'allonge sur le bas-côté et doit repousser des pieds une grosse pierre pour pouvoir étendre ses jambes.
Mets-toi là-bas, au bord!
Le troisième prisonnier saute du camion. Le quatrième prisonnier saute du camion.
Allez, va t'allonger là-bas avec les autres.
Le cinquième prisonnier saute du camion.
Voilà, fais un effort, fiston.
Le sixième prisonnier saute du camion. Les six prisonniers sont allongés face contre terre au bord de la route, les mains liées derrière le dos.
Les six jeunes prisonniers qui ont été brutalement extraits d'un camion bâché portent des traces évidentes de coups. Leurs vêtements sont souillés et déchirés. L'un d'eux est pieds nus. Un autre a le visage tuméfié et ensanglanté. Le hors-champ de cette scène est sans doute assez épouvantable. Les prises de vue expulsent ces six jeunes gens dans un brouillard d'anonymat. À de rares exceptions près, ils sont filmés de dos ou selon des angles et des cadrages approximatifs, fugaces, flous, surexposés, fragmentés. Leur image est déjà en morceaux. La vie de ces jeunes gens qui vont mourir n'a désormais pas plus de poids que n'en a leur image. Ils sont sortis du monde des vivants, projetés dans un état de soumission extrême et d'extrême résignation à cette soumission. Rien à présent ne pourra les sauver. Nul ne viendra les libérer. Si ce n'est le sidérant paradoxe où seule la mort mettra un terme à la torture de l'attente de la mort. Je veux ici nommer ces six jeunes Bosniaques qui vont mourir pour les extraire de cet anonymat. Dino Saljovic, 16 ans. Azmir Alispajic, 16 ans. Safet Fejzik, 17 ans. Juzo Delic, 25 ans. Samil Ibrahimovic, 35 ans. Sidik Salkic, 36 ans.
Zekan, idi brzo kać kamion i doteraj, brikla mi baterija. Pička je materina.
Un camion militaire passe sur la route sans s'arrêter. Scène 3. Extérieur, bordure de la route forestière. Les miliciens regardent les six prisonniers allongés au bord de la route, font les 100 pas, discutent entre eux, rient entre eux.
Regarde celui-là comme il tremble. Et lui, il s'est chié dans le pantalon.
Milorad Momic tire juste au-dessus de la tête d'un prisonnier pour lui faire peur. Un groupe de miliciens arrive à pied, on se serre la main, on discute. Scène 4. Extérieur, route forestière.
Čekaj, trebao si Momiću prvo nešto reći, mali jebi.
Allez debout.
Un milicien donne des coups de pied dans les jambes des prisonniers pour les faire se lever plus vite.
Allez, yalla, yalla.
Un milicien montre du doigt la direction à prendre. Les six prisonniers marchent sur la route, tête baissée, entourés des miliciens. L'un des miliciens sifflote. Milorad Momic marche devant, fusil d'assaut fièrement tenu par la détente, crosse contre sa hanche. Scène 5. Extérieur clairière.
Couche-toi, allez. Allez, enculé de ta mère.
Une rafale.
On avance.
Trois coups de feu. Le deuxième prisonnier se retourne face au milicien qui va l'abattre. Une rafale, puis une autre. Le troisième prisonnier s'avance. Une rafale. Puis trois coups de feu dans le corps déjà au sol.
Allez.
Le quatrième prisonnier s'avance lentement en rentrant les épaules.
Allez, avance. Les femmes et les enfants d'abord.
Une rafale. Des miliciens relèvent les deux derniers prisonniers qu'il avait fait s'allonger dans l'herbe à côté du lieu des exécutions.
Allez, levez-vous.
Levez-vous, on baisse la tête.
Des miliciens détachent les mains des deux derniers prisonniers et leur ordonnent de transporter les corps des quatre prisonniers exécutés un peu à l'écart. Les deux prisonniers survivants transportent un à un les corps des quatre prisonniers exécutés dans un coin isolé. Une fois accomplie cette tâche, les deux derniers prisonniers sont allongés dans une maison en ruine. Scène 6, extérieur, intérieur, maison en ruine.
Tire, allez, tire-le. Fais gaffe, putain, pas le mur.
Un coup de feu.
Il est encore vivant, celui-là. Attends, pousse-toi un peu à droite, toi.
Trois coups de feu. Deux coups de feu. Trois, inaudible.
J'ai encore trois balles.
Trois coups de feu. Voix inaudible.
Enfoiré.
Voix inaudible. Les miliciens s'éloignent tranquillement de la maison et disparaissent dans la végétation luxuriante et la lumière de juillet.
Nous intéressons ici qu'à ce que vous avez fait et pas à l'éventualité de la nature non criminelle de votre vie intérieure ou de vos motivations, pas plus qu'aux potentialités criminelles de ceux qui vous entouraient. Vous avez raconté votre histoire comme celle de quelqu'un qui n'a pas eu de chance et, connaissant les circonstances, nous sommes prêts à vous accorder, jusqu'à un certain point du moins, que si vous aviez bénéficié de circonstances plus favorables, vous n'auriez probablement jamais eu à comparaître devant nous ou devant une autre cour pénale. Supposons, pour les besoins de la cause, que seule la malchance a fait de vous un instrument consentant dans l'organisation du meurtre de masse, il reste encore le fait que vous avez exécuté et donc soutenu activement une politique de meurtre de masse. Car la politique et l'école maternelle ne sont pas la même chose. En politique, obéissance et soutien ne font qu'un. Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem.
Après, bon, ce qui s'est passé là-bas, c'est sûr que c'est vraiment pas beau. Mais bon, je dis pas que ce qu'il a fait, lui, c'est joli non plus, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, moi, de mon point de vue à moi, en temps de guerre, je sais pas ce que si nous, aujourd'hui, on serait en guerre, qu'est-ce qu'on devrait faire? Si on nous demande de faire quelque chose, je pense que, en étant militaire, on le ferait. Après, je crois que c'est... Il y a des personnes qu'il faut punir, ça c'est sûr, c'est clair. J'ai des enfants moi aussi, mais je crois qu'il faut punir les bonnes personnes.
Et puis donc un jour, vous avez appris qu'il avait été arrêté ou qu'il a été arrêté en janvier, hein, 2011.
Il avait été arrêté en tant que... Enfin, sous le motif de criminel de guerre. Et là, j'ai été stupéfait. Mais alors, vraiment, je suis tombé de vraiment très haut. Et aujourd'hui encore, je ne le crois pas.
Voilà. Et comment vous l'avez appris, ça, de l'arrestation
de dans le journal.
Dans le journal, c'est ça.
Dans le Dauphiné libéré, justement. Ouais. Ouais. Et oui. Et puis, ici, comme c'est le seul bistrot où je viens de temps en temps boire un café ou un truc comme ça, ça parlait beaucoup.
Et ça a jeté un froid, enfin, les gens étaient...
Comme moi, surpris. Même le mot surpris n'est pas assez fort. Stupéfait. Mmh. Parce que c'est... Non, jamais on a eu cette image de Milorad. Jamais. Bon, nous, on ne l'appelait pas Milorad, on l'appelait Mickey. Hein, c'était un diminutif, comment dirais-je, affectueux. Hein. Et non, c'est pas... Moi, je vous dis, aujourd'hui encore, je ne le crois pas. Je crois plus à un règlement de compte comme il y en a dans toutes les guerres qu'à autre chose.
Lorsque c'est arrivé, ils sont venus chercher à 6h. À 7h30, j'avais, je crois, Europe 1, l'Express, qui était venu me poser des questions parce qu'ils avaient su que c'était un ami à moi, quoi. Voilà, tout simplement.
avait rien dans son regard ou dans sa gestuelle qui pouvait laisser penser à des actes de violence forts comme ceux décrits dans le dossier. Donc là, dans l'acte d'accusation, il y a une multitude de gens en réalité. Il est cité parmi d'autres. Donc c'est difficile de s'y retrouver, mais tout ça, c'est assez précis finalement. Donc là, il parle de 120 personnes civiles internées dans un village. Torture psychique, physique des habitants, homicide, menace d'écrochage de la peau, empalement, intimidé par la mort, la pendaison, l'égorgement. Ils ont été ordonnés de laisser leur maison ouverte et ont été empêchés de se laver. Ils ont donné à manger au bétail alors que toutes les personnes avaient faim. Donc maison saccagée, véhicule, viol des femmes, travail forcé. Donc là oui c'était. Donc l'objet c'était de chasser les croates du village, de faire en sorte qu'il n'y ait plus que les Serbes qui restent. Hein. Quelqu'un à la tronçonneuse, accroché sur un cintre pour les porcs. Voilà, le père regardant son fils se faire tuer. Après, selon l'acte, il aurait tué son père aussi. Alors j'étais de permanence, effectivement, on appelle ça les permanences flagrant délit. Et donc ce jour-là, le procureur général, effectivement, a demandé à ce qu'un avocat intervienne pour une demande d'extradition. Alors je crois, sauf erreur, que le premier État, c'était la Serbie. Donc il y a une première procédure. Et à la suite de ça, peut-être quelques semaines plus tard, c'est la Croatie, je crois, qui a fait sa demande d'extradition. Voilà, donc on passe devant le procureur général et ensuite... Il y a une audience devant la chambre de l'instruction et la chambre de l'instruction doit donner un avis, favorable ou non, sur la demande d'extradition qui est présentée par le pays qui souhaite obtenir cette extradition. Et après, c'est le gouvernement qui décide au final. Voilà. Je le rencontre le jour de son arrestation. C'était très impressionnant parce que j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que... Alors, surtout pour l'audience, la première audience dans la chambre de l'instruction, il y avait vraiment un arsenal presque militaire dans la salle d'audience, c'est-à-dire devant la porte, derrière la porte, plusieurs hommes à l'intérieur de l'audience, parce qu'ils avaient peur que des personnes se vengent. Ils avaient peur de ça. Alors après, sur la deuxième audience, il y avait... un arsenal beaucoup moins fort, hein, des gendarmes. Et, la première audience, c'était assez impressionnant.
C'était où? C'était à Grenoble?
À Grenoble, oui, ici, au palais de justice.
Donc il a été amené ici
Amené ici, oui. Alors c'est un sentiment, un paradoxe total. Quand on lit, parce que j'ai lu le dossier avant de le voir, et quand on lit le dossier, c'est assez horrible, quoi. Alors après, je ne sais pas de quoi il a été reconnu coupable, mais première rencontre, déjà physiquement extrêmement impressionnant. Il doit faire 2 mètres, je pense, des mains énormes. Mais paradoxalement, extrêmement doux, gentil, pas catastrophé, pas affolé, calme, posé, limite souriant. Et puis, on n'imagine pas. Il y a un décalage, en fait, de ce qu'on voit de la personne et du contenu du dossier. Voilà. Donc c'est l'impression que j'ai eue tout le long. Donc lui, il me disait que tout ça, ça n'existait pas. C'était une manipulation. Et voilà, alors après, c'est vrai que dans la procédure, parce que c'est une vidéo qui a déclenché tout ça, et dans la vidéo, on ne le voit pas tuer les gens. Et apparemment, ils ont fait une enquête pour savoir si le film avait été découpé. Et en réalité, ils n'ont pas trouvé de traces de découpage. Voilà. Donc pour lui, tout ça, ça le faisait rire. Ça le faisait rire. Après, on l'accusait d'avoir tué quelqu'un à la mitraillette à partir d'un véhicule militaire, je crois. Enfin, voilà, quelque chose dont je me souviens. Alors nous, on a essayé de plaider une volonté politique, en réalité, parce que derrière tout ça, bon, il y avait la Serbie, la Croatie qui voulaient rentrer dans l'Europe, mais que manifestement, on leur avait demandé de faire une sorte de nettoyage, de rechercher, de retrouver tous ces gens qui soient jugés, et qu'après, on reparlerait de leur admission. Voilà.
Et vous pensez qu'il va revenir ? Enfin, qu'il pourrait revenir ?
J'espère, parce qu'il aimait bien la France. Il disait toujours qu'il se plaisait ici. Donc, si un jour je le revois, moi, dès que j'ai l'information, j'irai vers lui. Parce que c'est un type relativement timide qui ne va pas comme ça au-devant des gens. D'accord ? Je sais que s'il revient en France, si moi je ne vais pas vers lui, il risque de me regarder comme ça en se demandant quelle attitude je vais avoir vis-à-vis de lui. Et je voudrais le rassurer tout de suite pour lui dire non, t'es mon ami, t'es toujours mon ami. Voilà.
C'est très exactement ce besoin d'être à l'abri d'une collectivité et d'être relevé de sa responsabilité qui me semble recéler le plus fort potentiel d'inhumanité. C'est de lui que résulte l'attractivité d'une claire division du monde en bons et méchants, amis et ennemis, appartenants et non appartenants. C'est là que s'amorce, du côté des individus, l'escalade de la violence exterminatrice. Et pour finir, rien ne suffit à ce que des gens tout à fait normaux deviennent des meurtriers de masse. Manifestement, les deux ou trois siècles d'éducation rationaliste du genre humain en Occident ont assez peu développé cette qualité psychique qui devait remplacer l'intégration docile à des groupes, l'autonomie. Or, l'autonomie semble être effectivement la seule chose qui puisse s'opposer à la tentation susceptible de saisir chacun de devenir l'élément irresponsable d'un processus meurtrier. L'autonomie n'est pas, à vrai dire, un produit de la pensée. La capacité d'être autonome présuppose l'expérience du lien affectif et du bonheur. Malheureusement, nous ne disposons pas jusqu'ici d'un concept d'organisation sociale qui fasse goûter aux êtres humains ce bonheur concret, qui les protégerait du risque de devenir les instruments du malheur d'autrui.
Je crois qu'un des motifs de l'art et de la pensée, c'est une certaine honte d'être un homme. Je crois que l'homme qui l'a le dit, l'artiste, l'écrivain qui l'a le dit le plus profondément, c'est Primo Levi. Il dit, oui, quand j'ai été libéré, ce qui dominait, c'était la honte d'être un homme. Alors, c'est une phrase à la fois très splendide, je crois très belle, et puis c'est pas de l'abstrait, hein, c'est très très concret, la honte d'être un homme. Mais elle veut pas dire les bêtises qu'on risque de lui faire dire, hein. Ça ne veut pas dire nous sommes tous des assassins, ou ça ne veut pas dire nous sommes tous coupables, par exemple nous sommes tous coupables devant le nazisme. Primo Levi, il le dit admirablement, il dit ça ne veut pas dire que les bourreaux et les victimes ce soient les mêmes. Hein. Ça, on ne nous fera pas croire ça. Il y a beaucoup de gens qui nous racontent ah oui, on est tous coupables, mais non, rien du tout. Hein. On ne fera pas confondre le bourreau et la victime, ça.
Il y a un décalage, en fait, de ce qu'on voit de la personne et du contenu du dossier. We'll be right back.
citoyen très ordinaire.
Avec les témoignages de Séverine Lozano, Victor Noricio, Rémi Petain, Maître Steven Roche.
Remerciements pour la traduction des dialogues de la vidéo, frère Vladko Maric, du couvent Saint-François à Paris, et Denka Stimac.
Archive INA, Amélie Briand-Lejeune.
Texte lu par Garance Clavel, Véronique Lamandour et Thierry Rod. Avec des extraits de Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, Casimir Smotsarski, Entretien avec le bourreau, Abraham de Swann, Divisé pour tuer, Les régimes génocidaires et leurs hommes de main, Harald Welzer, Les exécuteurs, Des hommes normaux aux meurtriers de masse, ainsi que la voix de Gilles Deleuze dans son abécédaire.
Prise de son, Laurent Gros et Pierre Monteil. Mixage, Alain Joubert. Création on air, Irène Omelianenko et Inès de Bruyne. Un documentaire de Jean-Michel Espitalier,
réalisé par Véronique Lamandour. N'exigeons pas trop des gens. N'attendons pas d'eux qu'ils se conduisent comme des anges ou des héros. Casimir Smoksarski.
Demain, dans la CR, ce sera Atomic Radio 137 par Christophe Ruetsch et Marie-Laure Ciboulet. Il n'est pas tout à fait l'heure de retrouver Philippe Garbi et les Nuits de France Culture. Reste juste le temps d'écouter une composition de Novi Sad nommée Srebrenica.